Bonjour à tous. Angela Léry est cofondatrice avec Sarah Hamon de La Cabane Bleue, une maison d'édition pour la jeunesse créée il y a quelques mois. Alban Tessier, enseignant malvoyant bien connu des auditeurs d'Alternante, a réussi en 2018 la traversée à pied, seul et en autonomie, du Salar d'Uyuni en Bolivie, le plus vaste désert de sel au monde, à 3800 mètres d'altitude. En 2019, il a participé au Half Marathon des Sables Fuenteventura avec ses deux guides, Cindy Bello et Yann Petit. Il est également athlète handisport en marche athlétique au Racing Club de Nantes. Dans quelques mois, il devrait publier un livre sur son parcours et notamment son expérience sportive en Bolivie. Pour auteurs confinés, ils ont accepté tous deux de témoigner de ce qui a été leur confinement provisoire.
Bonjour, je suis Angela Léry, je suis cofondatrice et co-gérante avec Sarah Hamon de La Cabane Bleue. Merci beaucoup Daniel Raffalen pour cette interview confinée à laquelle je me prête volontiers. Alors La Cabane Bleue, c'est une maison d'édition de livres pour la jeunesse que nous avons créée en 2019. Et c'est une maison d'édition qui est dédiée à la nature, à l'environnement, à l'écologie au sens large et qui invite les enfants à aimer la planète sur laquelle ils vivent et à en prendre soin. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle La Cabane Bleue. On publie essentiellement des documentaires et quelques albums illustrés avec une ligne graphique assez forte et plutôt moderne. Ce projet, il est né de la volonté de faire du livre autrement, de changer un petit peu, de faire un peu bouger les lignes dans le secteur du livre et d'être cohérente. On s'est dit, on ne peut pas parler de nature, d'environnement et d'écologie et faire fabriquer nos livres à l'autre bout de la planète. Et donc, on a pensé les choses de cette manière-là pour faire un livre qui soit le plus éco-conçu possible. Donc, nos livres, ils sont fabriqués en France, ils sont fabriqués, imprimés en Vendée. On a fait appel à une fabricante qui a des valeurs qui sont vraiment... les mêmes que les nôtres, vraiment fortes autour de l'écologie et qui s'y connaît très très bien en fabrication, donc pour qu'elle nous aide à penser justement à un livre qui serait moins impactant, comment on pouvait faire pour gâcher moins de papier, quel papier utiliser, sûr on voulait du papier effectivement tracé, savoir d'où ça venait, est-ce qu'on utilisait du papier recyclé ou pas, parce que le papier recyclé, s'il est pas recyclé, aux États-Unis pour revenir en France, ça n'avait pas de sens. Donc voilà, tout ça autour de la fabrication du livre, quelles encres, etc. Mais aussi sur l'éthique générale de la maison d'édition. Comment on travaille, est-ce qu'on a envie d'avoir une maison d'édition avec un directeur, avec quelqu'un qui décide pour tout le monde, avec une manière de travailler chacun dans son petit précaré, ou est-ce qu'on a envie de monter un projet collaboratif, collectif, où on fait marcher l'intelligence collective? La réponse c'était tout de suite ça allait aussi, ça résonnait en nous, ça faisait sens de faire quelque chose qui soit cohérent à tous les niveaux. Alors après, on essaye d'être cohérente à tous les niveaux, et on fait des tests, on teste, et on est toujours dans cette idée de remettre en question les choses quand ça nous paraît pas aller dans le sens dans ce sens-là, dans le bon sens, dans le sens qui nous parle à nous. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a monté La Cabane Bleue, pour se sentir bien et porter quelque chose qui a du sens et déconstruire aussi, sortir des codes et du secteur du livre, sortir de la surproduction. Nous, on a choisi de faire pas plus de 8 titres par an, de publier 8 titres qu'on a envie de défendre longtemps. On veut que le fond soit mis en avant, on veut pas que ça reste 3 mois en librairie et que ce soit oublié. On veut penser la diffusion et la distribution du livre d'une autre manière. Alors on a choisi pour l'instant de ne pas être diffusé, justement parce qu'on n'a pas encore trouvé quel est le meilleur fonctionnement à adopter. Alors on a un distributeur par contre, parce que il nous paraissait important que tous les livres soient stockés au même endroit, qu'ils puissent partir du même endroit. Donc en termes de transport et aussi pour que effectivement un maximum de librairies indépendantes puissent les avoir aussi et les présenter au public. Donc il y a On est toujours en fait dans un laboratoire et on est toujours à essayer de trouver et tester ce qui est le mieux et ce qui en tout cas impacte le moins possible l'environnement, respecte le plus la terre, respecte le plus les humains et les artistes avec qui on travaille. Et voilà, c'était vraiment le projet Cabane, c'est un projet écologique et éthique. Quel regard portez-vous sur ce moment que nous vivons? Moi, je pense que je suis comme tout le monde. On est un peu sidéré, on a été sidéré au tout début du confinement et un peu pris de court et on essaye de comprendre ce qui se passe. On a tous des peurs, des interrogations, des incertitudes. Maintenant, moi, le regard que je porte sur ce moment, c'est ce qui m'anime aussi pour la cabane, c'est-à-dire me dire que bah on est dans une difficulté importante. Mais que du coup on peut rebondir et qu'est-ce qui va se passer après cette difficulté? Comment on peut rebondir au mieux? Encore une fois, je suis plutôt optimiste et je pars toujours du principe qu'on peut transformer le négatif en quelque chose de positif et réinventer, repenser les choses, sortir des codes et pas avoir peur d'aller de l'avant. Et de se relever d'une difficulté. Voilà. Donc c'est ce regard-là que je porte. Je me dis que c'est une situation qui est dure, mais de laquelle il peut ressortir des bonnes choses si on arrive à les transformer dans le bon sens. Comment envisagez-vous l'avenir de manière générale? De manière générale, j'ai envie hein, d'être optimiste sur l'avenir parce que je pense que la vie c'est j'ai envie d'être dans la joie, j'ai envie d'être dans le partage et j'ai pas envie d'avoir peur d'être dans des sentiments d'angoisse et voilà. Donc comme tout le monde, j'ai sûrement des moments plus difficiles mais j'essaye en fait de toujours voir le positif autour de moi. Voilà. D'une manière générale, je préfère penser les choses de cette manière-là. Maintenant, sans tomber dans la joie et l'optimisme sans borne, oui, je suis quand même réaliste et je pense que ça va être compliqué. Il va y avoir une crise économique assez forte. Suite à ce moment et à cette difficulté. Maintenant, voilà, dans cette crise économique, encore une fois, comment on va pouvoir rebondir et est-ce que les choses peuvent changer de manière profonde? Ça va sûrement prendre du temps, mais il y a plein de belles initiatives qui se montent et moi j'ai envie de voir toutes ces belles initiatives de proximité, toute cette solidarité. J'ai envie de voir voilà les belles choses et de me dire que elles peuvent passer devant les moins bonnes. Donc pour la cabane bleue, là on envisage de se déconfiner en même temps que les libraires qu'on a soutenus pendant 2 mois. On n'a pas envoyé de livres, on est resté confinés aussi. Et là, bah, ils commencent à se réorganiser. Et donc nous, on sort aussi un petit peu de notre confinement et on essaye de se réorganiser avec eux. On a 3 prochains titres qui arrivent là en mai. Ils devaient arriver en mars. Donc un nouvel album d'histoire et 2 documentaires. J'ai pas trop parlé, j'ai pas détaillé exactement les collections qu'on avait. Donc on a une collection qui s'appelle Suit du doigt où on va parler des espèces protégées et l'idée c'est que l'enfant suit avec son doigt en fait sur il y a plusieurs chemins et il va choisir un chemin et comprendre plein de choses sur les espèces. Dont on parle pardon dans les livres. Donc ça c'est une première collection qu'on a suit du doigt l'abeille, l'ours polaire et là on va avoir suit du doigt le loup et la tortue marine. Et on a vraiment hâte de les découvrir en librairie. Et on a donc un album d'histoire qui s'appelle Il y avait une maison qui est un très bel album qui a une sélection d'ailleurs pour le prix UNICEF 2020. Et là, on va sortir un nouvel album qui s'appelle L'Arbre lit, qui est pareil, une très jolie conte écologique écrit par Silène Edgar et illustré par Gilles Freluche. Voilà, donc on a trois nouveaux titres qui vont sortir là en mai, fin mai, le 29 mai. Et on est ravis vraiment de pouvoir les présenter à nouveau aux libraires. Il va y avoir sûrement des moments plus difficiles puisque bah, les libraires ils vont faire face à un afflux massif de livres de la part des diffuseurs, distributeurs et des éditeurs qui veulent les mettre en avant. Mais on est optimiste, on est confiante, parce qu'on n'a pas beaucoup de livres au catalogue, qu'on sait qu'on peut, c'est dans nos valeurs et qu'on va continuer à les porter. On a choisi de sortir que trois livres cette année finalement, suite à la crise du Covid, et on est très très contente de ce choix parce qu'on va pouvoir les porter et prendre le temps de leur faire une jolie place sur les étals des libraires et des magasins vrac. Donc on est plutôt confiante aussi et on est ravis que ça suive. Le public nous suit aussi pas mal. On a une newsletter avec 700 abonnés et des gens qui commandent nos livres via notre site internet. Donc voilà, l'aventure continue pour la cabane bleue. On s'arrête pas là, on est au taquet, comme j'aime à dire.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver sur l'antenne d'Alternante une nouvelle fois, même si les circonstances sont un peu particulières, enfin vraiment particulières d'ailleurs, et on espère qu'on va retrouver une vie normale au plus vite. Donc, Daniel, tu m'as transmis quelques questions à aborder, donc bah, c'est ce que je vais faire, hein, je suis bon élève. Donc tout d'abord, comment se déroule le confinement professionnellement et familialement? Alors d'abord, professionnellement, c'est assez perturbé. Je rappelle que je suis enseignant dans un institut spécialisé pour malvoyants et jeunes autistes, jeunes atteints de TSA. Donc, bah, tout le monde est confiné chez soi. Nous, l'activité sur site s'est arrêtée. Donc, on essaye de garder du lien avec les usagers. Donc, on télétravaille. J'ai des réunions régulières avec mes collègues par visioconférence. Et puis, autrement, on essaye d'appeler les jeunes et leurs familles pour garder ce lien qui est important. En ce qui concerne le travail pédagogique, c'est un petit peu plus complexe, mais je crois que la priorité est moins là et que l'essentiel, c'est garder ce contact humain qui nous lie. Voilà, on espère que quand même l'activité va reprendre au plus vite. On en saura un peu plus dans les prochains jours. On ne dépend pas de l'éducation nationale. Donc comment dire, les mesures sanitaires sont un petit peu différentes pour nous, puisqu'on a un public relativement fragile et qu'on doit prendre en compte toutes ces spécificités. Voilà, au niveau personnel, au niveau familial, eh bien, mes deux filles font l'école à la maison. Donc, j'ai ma plus jeune Lison qui est en CM2. Et puis la plus grande qui est en cinquième. Donc les enseignants jouent bien le jeu et puis nous transmettent le travail à faire, hein. Donc c'est vrai que bon, il a fallu un petit temps de rodage et que bon, c'est pas pleinement satisfaisant, bien entendu, mais je pense qu'on limite la casse. Et qu'on arrive, enfin en tout cas elles arrivent à travailler convenablement. Voilà, donc les choses se font, ben c'est voilà, le lien avec les enseignants se fait bien, le contact est là aussi, hein. Donc les transmissions se font régulièrement, et puis voilà, et ça on s'adapte, hein. Bon, c'est vrai que ça demande quand même un peu de travail, mais bon, quand elles sont à l'école également, il faut 3 à 4 heures par jour pour effectuer ce travail pédagogique. Et puis mon épouse est là aussi pour assister les filles, puisque moi je suis aussi pris par le travail, par le télétravail. Donc voilà, on arrive assez bien à gérer là-dessus. Après, je dois dire que c'est là qu'on se rend compte aussi du rythme qu'on s'impose quotidiennement dans nos modes de vie, et que là, du coup, les cartes sont rebattues. Et bon, même si effectivement il y a un certain stress ou une certaine anxiété liée à cette situation de Covid, mais justement tout ce qu'on a autrement, les transports, le rythme soutenu de nos vies quotidiennes est quand même un peu différent. Et c'est vrai que ben, on passe du temps en famille dans un autre rythme qui est au final moi je trouve pas inintéressant. Enfin, ça repose les questions de nos modes de vie habituels. Voilà, après, je continue à faire du sport, bien évidemment. Je suis sportif, hein. Même si, là, pour le moment, moi, j'ai pas pris le choix de faire mon sport à l'extérieur, même si c'est possible, hein, avec l'heure que l'on peut utiliser. Mais bon, j'ai du matériel à la maison. J'ai la chance d'avoir un vélo elliptique, j'ai un rameur, j'ai un vélo d'appartement, enfin j'ai un home trainer plus précisément. J'ai aussi un petit peu de fonte, ce qui me permet de faire un petit peu de musculation, et puis également je peux faire un peu d'électrostimulation, donc j'ai tout ce qu'il faut aujourd'hui pour maintenir ma condition physique. Même si, bien évidemment, on est d'accord, faire du sport à l'extérieur, c'est quand même autre chose. Voilà, donc à ce niveau-là, on continue. Et puis sur le plan associatif, puisque je fais partie de l'association à perte de vue qui sensibilise au handicap visuel, bon, ben là, effectivement, les choses sont un petit peu à l'arrêt. On avait prévu de mettre en place une journée découverte du roller avec la LSS Roller Skating sur Saint-Sébastien-sur-Loire, une journée de découverte du roller à destination des malvoyants, et c'était prévu le 14 juin, donc bien évidemment on a reporté tout ça, donc voilà, ça perturbe un petit peu tout ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense qu'à ce niveau-là, on est pas mal. Et puis, après, sur quel regard je porte sur cette période que tu qualifies d'exceptionnelle, effectivement, je suis d'accord, Daniel. Comment j'envisage l'avenir? Bien, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus. On se demande effectivement est-ce qu'on va pouvoir retrouver une vie qui va ressembler à la précédente, en tout cas dans les contacts humains qu'on pouvait avoir, ou dans notre vie associative, dans notre vie professionnelle. Bon, on l'espère en tout cas. Après, c'est vrai qu'il est peut-être encore un peu tôt pour le dire. On attend aussi cette période de déconfinement qui va nous permettre de reprendre un rythme autre, et puis un peu plus sortir de la maison. Donc voilà, on verra. Après, c'est vrai que ce dont on a peur, c'est au niveau économique. Alors je parle pas de l'économie de la, entre guillemets, de la grande économie, je parle plutôt de l'économie des petites sociétés des petites entreprises qui vont souffrir bien évidemment, malheureusement, de tout ça. Et là, je pense qu'on ne mesure pas encore les impacts de ce que ça va produire, et on espère que les gens ne seront pas trop impactés. Enfin, voilà, c'est compliqué de le dire aujourd'hui. On verra comment on avance là-dedans. Après, bien évidemment, on espère aussi que ça ne touchera pas trop de personnes, et que chacun pourra conserver une santé de qualité, et qu'il n'y aurait pas de séquelles non plus pour ceux qui ont été touchés, et puis bien évidemment que ça ne s'amplifie pas. Donc voilà, à ce niveau-là, on connaît en fait assez peu de choses, j'ai l'impression, sur cette maladie. Après, voilà, qu'est-ce qu'il en sera de notre vie associative aussi? Nous, on va continuer à militer pour la sensibilisation au handicap visuel. C'est vrai que là aussi, des projets comme j'ai pu mener, je pense que ça sera compliqué de partir à l'étranger dans les semaines, dans les mois qui vont venir. Donc, on avait peut-être en tête un petit peu d'aller au Pérou. Je pense que ça sera à revoir. Et puis dans nos partenariats, c'est vrai qu'on avait des petites entreprises qui nous soutenaient. Je pense que là, ça va être compliqué aussi. Mais bon, je crois que la problématique n'est pas là pour l'instant. C'est d'être là où les gens auront besoin de nous. Donc, il s'agit de mesurer un petit peu l'impact de cette pandémie et puis d'envisager notre action par la suite. Alors, on va essayer de rester optimiste, pardon. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une bonne santé. Je pense que c'est important. Et puis, envisager ce déconfinement du mieux qu'on le peut. Voilà, je vous souhaite à tous, encore une fois, de prendre soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir, Daniel.